ici dans cette salle avec tant de souvenirs. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous avons eu la joie de faire partie de cette église dans les années 2010 à 2020. On a vécu beaucoup de choses, y inclus le moment de trouver ce bâtiment, de faire toutes les rénovations et avoir la joie de nous réunir ici. Donc, nous sommes très contents de nous retrouver ici avec tant de bons souvenirs de la fidélité de Dieu. Sur un bateau, il y avait un Anglais, un Français et un Italien. Alors, vous avez déjà entendu les blagues de ce genre où déjà on commence à imaginer, oui, l'anglais, il va dire ceci, le français, il va réagir de telle manière, l'italien à sa manière et tout. Parce qu'on a toujours des idées de ce qu'on est dès qu'on commence à parler ou parler de sa nationalité. Alors, pour moi, c'est le défi continuel de tous les jours. Dès que je dis quelque chose, ah! Est-ce que je détecte un petit accent? Alors maintenant, je peux dire, mais je suis français, ce qui est vrai. Oui, mais bon, vous n'êtes pas, vous venez d'où? Parce que j'entends un accent. Maintenant, ma réponse est, mais vous aussi? Tout le monde a un accent. Oui, mais bon, on veut savoir l'origine, vous venez d'où, selon votre nationalité, votre héritage et tout. Comme ça, parce qu'on a déjà une idée. Ah, si vous êtes ça, vous êtes aussi. On commence à catégoriser les gens selon ce qu'on a vécu ou d'après des réputations. Parce que chaque culture, chaque nationalité a sa propre réputation. À cause de quoi? Mais à cause du comportement des gens de ce pays. On commence à dire, ah oui, je sais, parce que... Alors, je me souviens quand on... Et c'était pendant notre séjour ici à Pontcharrat, on a décidé de devenir français, de passer par la naturalisation. Alors là, ça, c'est une leçon de persévérance. J'ai vraiment l'impression que si vous voulez vraiment devenir français, on va voir si vous pouvez tenir le coup jusqu'au bout. Et si oui, éventuellement, on va vous accorder la nationalité. Oh, il fallait passer par tout un parcours. Il fallait manifester une certaine connaissance, démontrer une connaissance de la langue française, de la culture française et des valeurs de la République. Parce que la France veut les gens qui connaissent et qui vivent les valeurs de notre pays. Ah, mais ça doit être la même chose pour nous. On a chanté pas mal ce matin du fait que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des citoyens des cieux. Dans Philippiens chapitre 1, verset 27, nous lisons « Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. » Nous sommes citoyens du royaume de Jésus-Christ. Et ça veut dire que quand les gens nous observent, ils auront une impression, ah, vous êtes d'accord. Donc ça veut dire, quelle réputation donnons-nous au royaume des cieux, royaume de Jésus, par notre façon de vivre? Alors, il faut avoir un peu de contexte avec ce verset. C'est vers la fin du premier chapitre des Philippiens. L'apôtre Paul a écrit à cette église, une église qu'il aimait beaucoup. Il avait une relation particulière avec cette église. Pourquoi? Parce que c'était au début d'un voyage missionnaire. Il avait l'intention d'aller à un endroit, mais le Saint-Esprit et les circonstances lui ont montré que non, il ne faut pas passer par là, il faut passer plutôt à ce qu'on appelle l'appel macédonienne, où il a passé dans un autre pays, un autre secteur. Et première église, première implantation, premier projet, c'était à Philippe pour démarrer cette église pour les Philippiens. Donc l'apôtre Paul avait tant de bons souvenirs de cette église, mais il était actuellement en prison à cause de sa foi. Petit souvenir, il était en prison à Philippe aussi, au début de son ministère. Donc le peuple commençait à poser la question, mais Paul, comment pouvons-nous continuer dans de telles circonstances quand tu viens ici pour démarrer l'église, tu es jeté en prison. Le Seigneur t'a délivré, ça c'est génial. Mais maintenant tu es de nouveau en prison et à cause de ta foi. Et Paul a dit à maintes reprises au chapitre 1, mais ne vous inquiétez pas, Dieu est souverain, il fait son travail, je suis là où je dois être pour la volonté du Seigneur. Mais entre-temps, et voilà le contexte, quoi qu'il en soit, ça c'est le quoi qu'il en soit, il était en prison à cause de sa foi. Et vous et les Philippiens, passez par les moments de persécution aussi, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Et plus tard, au chapitre 3, vers la fin du chapitre 3, il va dire, « Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour vous, pour nous sauver. » La fin du chapitre 3. Quelles sont les valeurs que nous devons démontrer en tant que citoyens des cieux? Et ça, c'est le début du chapitre 4. Alors, dans vos Bibles, que ce soit comme ça, ou smartphone, ou la version, ou la façon que vous avez de lire la Bible, vous allez remarquer qu'après ça, il y a un grand chiffre 4 pour changement de chapitre, comme si on va parler maintenant d'un autre sujet. Pourquoi les gens qui ont fait ce système de versets et de chapitres ont décidé de faire une coupure majeure à ce point-là? Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que à la fin du chapitre 3, il vient de dire ça, et les premières paroles du chapitre 4, c'est pourquoi. C'est pourquoi veut dire par la suite de ce que je viens de dire. Voilà ce que je veux. Donc, c'est dommage qu'il y ait ce changement de chapitre. Parce que ce que nous allons voir maintenant, Philippiens chapitre 4, quand je vous lis ces versets, vous allez dire, si vous connaissez le Seigneur depuis un certain temps, « Ah oui, mais ce texte, je connais déjà. » C'est un texte qu'on connaît tellement bien. Oui, mais le contexte de ces 9 versets, c'est que vous êtes citoyens des cieux. Vous devez mener une vie digne de votre nationalité, de votre appartenance au peuple de Dieu. C'est pourquoi, et notons bien l'importance de ce que Paul veut dire, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, oh mais dis donc, l'apôtre Paul, ben moi j'ai fait pas mal de travail dans mon ministère pour aider les gens à raccourcir ce qu'ils disaient dans les lettres de nouvelles et des choses comme ça, parce qu'on a tendance à envoyer une dizaine de pages aux gens qui n'ont pas prendre le temps de lire ces 10 pages et de raccourcir un peu. Donc l'apôtre Paul, j'aurais pu dire à Paul, c'est pourquoi mes bien-aimés demeurez, il faut, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Pourquoi? Parce qu'il voulait dire, chers amis, ce que je vais vous dire maintenant a une importance primordiale. Vous devez écouter ce que je vais vous dire. Faites une pause maintenant pour écouter bien ce que je vais dire. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, c'est-à-dire en tant que citoyen des cieux, mes bien-aimés. Bon, maintenant l'apôtre Paul, il attire notre attention. Il va nous dire quelque chose de primordial. Soyons à l'écoute. Nous sommes citoyens des cieux. Ça, c'est génial, n'est-ce pas? On a chanté, nous sommes des enfants de Dieu, par adoption. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous avons un passeport qui n'a pas de date d'expiration. On a un passeport qui nous donne droit au ciel pour toute éternité. Ça, c'est extraordinaire. Arrêtons maintenant là, prions, remercions. Non, l'apôtre Paul, non. Il y a d'autres choses à dire. Vous êtes citoyens des cieux. Alors, écoutez bien. Première valeur, l'harmonie. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Mettez-vous dans la place de ces Philippiens qui écoutaient pour la première fois la lecture de cette lettre, et surtout si vous êtes Évodie ou Saint-Tiche. Parce que l'apôtre Paul vient de dire, vous êtes des citoyens des cieux, gloire au Seigneur, il vient pour nous sauver. Mes bien-aimés, vous qui êtes, que j'ai vraiment à cœur, voilà les choses que j'ai à vous dire. J'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche, et le mot est utilisé deux fois dans l'original. Hein. Il aurait pu dire j'exhorte et vous dis et Saint-Tiche. Non, il n'a pas dit ça. J'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur, et toi aussi, fidèle collègue. Qu'est-ce qu'on fait avec un passage comme ça? D'abord, ce n'est pas vraiment correct de nommer les gens comme ça. Il aurait pu dire, j'exhorte, je vous exhorte au général à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Non, 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 l'apôtre Paul dit non, c'est trop important là. L'harmonie, l'unité entre les frères et sœurs en Christ est tellement importante que s'il faut le nommer publiquement, je vais le faire. C'est très important. Donc, première chose que je tire de ça, c'est qu'une telle harmonie n'est pas automatique. Bon, je pense que je ne vous apprends rien de vous montrer que ce n'est pas automatique d'être toujours en harmonie avec nos frères et nos sœurs en Christ. Nous sommes des êtres humains avec nos personnalités, avec nos préférences, avec nos préjugés, avec tout cela, sauvés par la grâce de Dieu, oui, mais quand même, ce n'est pas automatique de vivre en harmonie les uns avec les autres. L'apôtre Paul le savait bien. Il a dit qu'il y a des moments où il faut dire que bah, dans cette situation-là, l'unité est cassée, l'harmonie n'est plus là, il faut une réconciliation, il faut vivre en unité. Qu'est-ce que Jésus-Christ a prié dans Jean chapitre 17, sa prière, avant de se livrer pour payer pour nos péchés? Il a prié le Père et parmi d'autres choses, vers la fin, il a dit « Je prie qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un ». Pourquoi ? Afin que le monde comprenne, que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé. Un moyen incroyable que nous avons de manifester la valeur de notre citoyenneté aux cieux, c'est de manifester notre unité les uns avec les autres. L'exhortation est donnée à chacune des deux. Pourquoi ? Parce que c'était à chacune de faire le premier pas. Combien de fois dans ma vie est-ce que j'ai vu qu'il y a eu un désaccord entre deux chrétiens et les deux attendent que l'autre fasse le premier pas? C'est toujours ma responsabilité de faire le premier pas. Que je sois la personne qui a offensé quelqu'un ou que je suis l'autre, que quelqu'un m'a offensé, c'est à moi de toujours faire le premier pas. Jésus a dit, si vous apportez vos offrandes et vous savez que vous avez offensé quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais vous laissez votre offrande et vous allez voir, vous réconcilier avec votre frère. Plus loin, il a dit, si quelqu'un vous a offensé, vous devez d'abord aller voir cette personne pour être réconcilié. C'est toujours ma responsabilité, c'est toujours ta responsabilité de faire le premier pas. Parce que l'unité est essentielle en tant que citoyen des cieux. Même sentiment, parfaite harmonie, même pensée. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder ce qu'il avait même dit dans ce contexte, au chapitre 2, les cinq premiers versets. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Des fois, on a du mal à discerner la volonté du Seigneur, mais sur ce point-là, je crois que le message est clair. Nous devons vivre en harmonie les uns avec les autres. C'est ça la première valeur. Ensuite, et aussi, Je te prie de les aider. Il s'adressait aux responsables de l'Église. On a besoin d'aide pour cela. Des fois, c'est à nous d'aller voir des personnes en désaccord pour dire que, mais maintenant, il faut régler ce problème. On a besoin d'aide. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel. Deuxième valeur, la joie en tout temps. Réjouissez tout le monde, tous les chrétiens connaissent ce verset. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous. Prenons cette phrase d'une autre manière. S'il avait tout simplement dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », ben oui, mais bien sûr, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Je suis enfant de Dieu, il m'a sauvé, je suis membre de sa famille, nous sommes frères et sœurs, réjouissons-nous dans le Seigneur. Mais il a dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Réjouissez-vous toujours à la maison, au travail, à l'école, avec les voisins, sur la route, au moment de faire le plein avec les prix actuels. Réjouissez-vous. Ah, merci Seigneur pour l'essence que je peux mettre dans ma voiture. Qu'importe le prix, parce que tu pourvois tous mes besoins. Est-ce que ce n'est pas vraiment mon attitude actuellement? Oh là là, les prix, le gouvernement aurait pu... Réjouissez-vous toujours, et on peut le faire, dans le Seigneur. Je le répète, pourquoi est-ce qu'il répète ça? Parce que ce n'est pas évident. L'apôtre Paul aurait pu dire tout simplement « Réjouissez-vous dans le Seigneur », point suivant. Non, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et je le répète, c'est une façon de souligner « Réjouissez-vous ». Quel exercice de foi de nous réjouir dans le Seigneur dans toutes circonstances. Dans le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui est souverain. Nous connaissons tous Romains 8, 28. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Réjouissez-vous en toutes choses. Et Jacques a dit de considérer comme un sujet de joie complète toutes les épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Ça, c'est une valeur de la République de Jésus-Christ, de la joie dans toutes circonstances. Et ça va se voir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, je vous laisse remplir la phrase. Oui, je dois me réjouir dans telle situation, dans tel événement dans ma vie. Quand les nouvelles ne sont pas bonnes, quand on passe par des épreuves de toutes sortes, de nous réjouir, je le répète. Troisième valeur, il continue, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Alors ce verset est très intéressant parce que le mot douceur, utilisé dans la version seconde, dans la semeur, Bible semeur, c'est amabilité. Que votre amabilité soit connue de tous les hommes. Ah, l'amabilité! La gentillesse, la politesse, une bonne réaction, même si on se trouve dans des situations difficiles. Que votre amabilité soit connue, soit vue de tous les hommes. Et ça veut dire que, soit connue, faites-vous connaître par, ça doit se voir, notre amabilité dans les circonstances de la vie. Je me souviens toujours d'un homme que j'ai rencontré au début de notre ministère en France, dans la région parisienne. Il est venu à l'église. Je voyais tout de suite qu'il n'était pas très à l'aise, donc je me suis présenté à ce jeune homme. Et en parlant l'un avec l'autre, j'ai découvert pas mal de choses. D'abord, il était communiste, militant, athée à 200%, j'ai dit, mais alors, qu'est-ce que tu fais ici avec cette introduction? Qu'est-ce qui t'amène? Il a dit, ah, mais alors là, oui, tu sais, celle-là il y avait une jeune fille dans le groupe. Je ne comprends pas comment elle peut agir comme elle le fait. Elle travaille, moi, je travaille au même bureau qu'elle et j'ai fait de mon mieux de l'irriter, de l'agacer, de faire tout ce que je peux et chaque fois un sourire. Je ne pouvais pas comprendre. Donc un jour, je lui ai demandé, mais dis-moi, quel est ton secret? Comment est-ce que tu peux garder un esprit si calme et aimable dans toutes les circonstances? Oh, mais parce que Jésus a changé ma vie. Ben, je ne crois pas en Dieu. Oh, ben, tu m'as demandé pourquoi j'ai agi comme ça. Je te dis que j'appartiens à Jésus, j'ai ma foi en lui, il m'a changé ma vie. Oh, ce n'est pas possible. Bah, tu m'as posé la question. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs. Si tu veux voir d'autres personnes comme ça, mais viens avec moi à l'église. Oh, mais je ne viens pas. Mais il est venu à l'église. Il a vu cet esprit. Alors, pour raccourcir cette histoire, après des mois, il est venu au Seigneur. Il s'est converti, j'ai eu la joie de le baptiser, j'ai eu la joie de d'officier le mariage, il est toujours membre fidèle avec son... Mais quel était le point de départ? C'était le témoignage de cette jeune fille qui vivait cet esprit, que votre amabilité soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. C'est une valeur du royaume de Jésus, de tous les hommes, pas seulement des autres chrétiens, que notre amabilité soit connue de nos voisins, des gens autour de nous, au travail, à l'école, dans toutes les circonstances. Le Seigneur est proche. Et c'est intéressant qu'il ajoute cette phrase, mais oui, mais parce que ce n'est pas facile d'agir comme ça. Mais on peut le faire pour deux raisons. Pour la raison que le Seigneur est proche dans les deux sens. Le Seigneur est proche, il est toujours avec nous. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est toujours proche de nous. Mais aussi, c'est une phrase utilisée très souvent dans toute la Bible pour l'idée que le Seigneur reviendra. Il revient. Il va, lui, revenir pour établir sa justice. Jésus va régner. Et il gère toutes choses à sa gloire. Donc, si je me sens abusé par le système ou par les membres et par d'autres choses, mais un jour, Jésus viendra pour établir sa justice. À lui, la vengeance. À moi, la vengeance, dit le Seigneur. Et si on a cet esprit, moi, le Seigneur est proche. Proche de moi dans ma vie quotidienne, mais proche dans le fait qu'il va revenir. Je peux, par sa grâce, vivre une vie de douceur ou amabilité. Troisième valeur de son royaume. Ensuite, il continue. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Dans l'original en grec, on m'a appris, je ne suis pas spécialiste, mais on m'a appris que cette phrase-là, on pourrait mieux traduire « arrêtez-vous de vous inquiéter ». C'est une action déjà en cours qu'il faut arrêter. Pas tout simplement « ne vous inquiétez de rien », mais « arrêtez-vous de vous inquiéter ». Alors, si vous ne vous inquiétez jamais et votre vie est calme à 100%, ce verset ne s'applique pas à vous. Mais je crois que nous sommes tous dans le même sac-là. On a tendance à s'inquiéter, n'est-ce pas? Si vous regardez le journal, vous allez vous inquiéter. Si la situation de notre monde est catastrophique, il y a un niveau de stress, de conflit incroyable. Et moi, j'ai le privilège de vivre ça dans deux cultures. Je vois ça en France. Et je vois ça aux États-Unis. Et ce qui n'est pas évident, c'est que nous sommes alliés, semble-t-il, mais dès que j'entends les Français parler des États-Unis, je dis, ce n'est pas vraiment comme ça. Et quand j'entends les Américains parler de la France, ce n'est pas vraiment comme ça. Et tout le monde me demande, tu es français, donc je suis critiqué des deux côtés. Je ne peux pas gagner. Est-ce que tu es pour ou contre? Est-ce que toi, surtout si on, est-ce que tu as voté pour? Et je vous laisse remplir la phrase. On ne peut pas gagner. C'est l'inquiétude. Qu'est-ce que je vais faire? Nous avons, Karen et moi, un voyage prévu dans 2 semaines et demie maintenant. Nous devons, en principe, partir aux États-Unis pour réunir toute notre famille pour fêter nos 50 ans de mariage. Ça, c'est formidable, n'est-ce pas? Oui. Merci. Mais si vous voulez aussi prier pendant ces 2 semaines et demie, que quand le moment arrive d'aller à l'aéroport, que d'abord, les avions peuvent décoller avec assez d'essence ou voilà pour aller là-bas, parce que nous avons 4 enfants aux États-Unis qui habitent dans les 4 zones de temps aux États-Unis. Donc, eux, ils doivent aussi voyager à un lieu central. Un enfant qui habite à Grenoble qui doit aussi y aller. Donc, beaucoup de vols, beaucoup de choses. Ne vous inquiétez de rien. Oui, Seigneur, tu es maître de toutes choses, y inclut le prix de l'essence et des compagnies. Ce n'est pas évident de rester tranquille dans des situations comme ça. Ce n'est pas facile. Mais il dit, mais en toute chose, voilà, et Matthieu, je fais référence à Matthieu 5, parce que dans le serment sur la montagne, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de comment vous allez vous habiller, de votre... Voilà, mais je m'occupe de vous, je m'occupe des oiseaux et de tout. Mais je m'occupe de vous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Facile à citer, pas évident à vivre. Mais il donne la solution. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Supplication veut dire, alors là, j'ai un besoin vraiment intense sur mon cœur, avec des actions de grâce. N'oublions pas de remercier le Seigneur dans nos prières. Donc, la quiétude. Oh, quelle grâce de pouvoir vivre dans un esprit calme, malgré la situation politique, économique, sociale, etc., de vivre une vie tranquille. Parce que ça amène à une autre valeur, la paix. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comme on a besoin de cela pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Comme Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne, je vous donne ma paix. » Alors, quelle est la différence entre la paix que Jésus donne et la paix que le monde peut nous offrir? Mais le monde offre une paix qui est basée sur la réconciliation globale, il n'y a plus de problème et tout le monde est content de vivre les uns avec les autres. Ça, c'est génial et impossible. Il y aura toujours des conflits. Il y aura toujours des problèmes parce que si nous sommes des pécheurs, nous avons l'orgueil comme obstacle et tout. Si vous voulez voir la paix que le monde offre, mais regardez le journal tout à l'heure et vous verrez tous les discours en Ukraine, en Russie, en Israël, en Liban, en Iran. Ça, c'est la paix que le monde peut nous offrir, la réconciliation de tout ça. Alors, bon courage. Non, Jésus a dit, je vous donne ma paix, ma paix. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ça. Tu peux vivre tranquillement avec cette certitude que je m'occupe de toi et de vous. Dans toutes les situations, je suis souverain. La paix de Dieu. Grâce à la paix avec Dieu, et vous pouvez avoir comme référence Romains 5, 1, qui parle du fait que nous avons la paix avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Grâce à la paix avec Dieu, nous pouvons connaître la paix de Dieu qui gardera nos cœurs et nos pensées. Mais il termine par les pensées maîtrisées. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors là, ça serait intéressant de, à la fin de la journée, d'examiner toutes nos pensées par rapport à ces critères. Il y a beaucoup d'années, j'ai trouvé, vous pouvez voir par l'âge de cette page, que j'ai trouvé une citation qui m'a toujours intrigué, que j'ai gardée quelque part dans mes dossiers, que j'ai trouvé. C'est ce qu'on appelle les trois passoires de Socrate. Alors, Socrate, ce n'est pas un des auteurs de la Bible, on est d'accord. Mais il a quand même dit des choses intéressantes, et j'ai trouvé cet article. Quelqu'un vint un jour auprès du sage Socrate et lui dit: j'ai quelque chose à te raconter sur ton ami. Arrête, interrompit le philosophe. Tout d'abord, dis-moi si tu as passé ce que tu veux me rapporter au travers des trois passoires. Les trois passoires? Fit l'autre étonné. Qu'est-ce que c'est? Voilà, mon bon ami, voyons d'abord si la chose est vraie. C'est la première passoire. Vraie? Je le suppose, car on me l'a raconté. Ah, on te l'a raconté. Enfin, admettons que ce soit vrai. L'as-tu passé à travers la deuxième passoire? Est-ce que c'est au moins bon? L'autre hésita. Bon, pas précisément, mais c'est même le contraire. Fit le sage, ça s'annonce mal. Essayons au moins la troisième passoire. Est-ce que utile que je sache ce que tu dis? Ce qui t'agite tant. Ouf, ce n'est pas utile ni indispensable, mais écoute, dit Socrate, en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni certainement vrai, ni bon, ni utile, je n'ai nulle envie de le savoir, et si tu veux me croire, tu ne t'en occuperas pas plus que moi. Autrement dit, de réfléchir à ce que nous voulons penser et dire. Mais l'apôtre Paul y donne 8 passoires. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Là, je pense que ça changerait notre façon de penser si on mettait ça en pratique. C'est vraiment une exhortation pour nous. Mais et la fin de tout cela, et ça c'est la fin des versets 1 à 9, qui est la conclusion de ce qu'on a dit. Vous êtes citoyens des cieux, donc il y a des valeurs à vivre. Et si vous mettez en pratique ces choses, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout cela? Les valeurs du royaume, Philippiens 4, 1 à 9, demeurez fermes dans l'harmonie, la joie, l'amabilité, la quiétude, la paix, les pensées maîtrisées. Ça, c'est... Mais si vous êtes comme moi, vous allez entendre quelque chose comme ça, dire, oui, d'accord, j'ai compris. Voilà, ouais, effectivement, il faut mieux vivre. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Donc, à partir de maintenant, je serai plus en harmonie avec mes frères et sœurs. Je vais manifester la joie en toutes choses. Je ferai de mon mieux d'être plus aimable envers les autres. Quiétude, oui, Dieu s'occupe de toutes choses et la paix va régner dans mon cœur et je vais essayer de mieux maîtriser mes pensées. Merci, prions et bon appétit. de bonnes résolutions, autrement dit. Mais il y a un autre texte qui dit presque la même chose dans un autre épître du même auteur, l'apôtre Paul, que vous connaissez très bien. C'est Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est presque la même liste. C'est dit d'une autre manière, mais c'est presque la même chose. Mais quelle est la nuance ? C'est le fruit de l'esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui exerce en nous le changement de caractère pour manifester ces choses. Donc, ne prenons pas comme de bonnes résolutions. Prenons comme, oui, je dois marcher avec l'Esprit qui règne dans mon cœur. Parce que plus le Saint-Esprit règne dans mon cœur, plus que je vais manifester par sa puissance et par sa grâce, pas grâce à moi, mais grâce à lui, je vais manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, comme de bons citoyens des cieux. C'est ça la clé. Donc ma prière pour nous ce matin, c'est que humblement, on remet notre vie entre les mains du Seigneur. Seigneur, travaille en moi, fais ton œuvre en moi. Tu m'as donné la grâce, tu m'as accordé la grâce d'être ton enfant, d'être membre de ton royaume. Je suis citoyen des cieux. Alors, Seigneur, s'il te plaît, que ça se voit par ton esprit qui opère en moi. Aide-moi à vivre les valeurs de ton royaume pour ta gloire. Prions. Merci Seigneur pour la joie que nous avons de t'appartenir. Merci pour ta grâce, pour ton amour qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Tu nous as accordé le privilège d'être tes enfants, d'être membres de ton royaume. Ô Seigneur, que le monde sache par notre amour les uns pour les autres et tes valeurs que c'est toi qui dois régner. C'est en toi que nous pouvons trouver la vraie solution pour les choses qui troublent notre monde. Ô Seigneur, que tu travailles dans notre cœur pour ta gloire. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Vive la République. Non.